fait arriver dans ce studio tout sourire aux lèvres Jean-Van Emmelroy. Bonjour.
Bonjour.
Quand vous avez envie de parler d'agressivité, votre séquence s'intitule « Cris et hurlements ».
Ouais. Oui, tout à fait. Je voulais vous parler de courgette 22.
Qu'est-ce que
vous connaissez courgette 22,
non.
Eh ben, en fait, il s'avère que courgette 22 ne m'aime pas.
Ah.
Et chaque fois que j'ai le plaisir de passer chez vous, il m'envoie un petit message pour me dire combien ma parole est nulle, combien mes réflexions sont idiotes, que je suis un envahisseur de tous les espaces. Ce qui est probable, c'est vrai. En quoi ma parole serait-elle intelligente, juste ou nuancée ou véritable? Mais comment faire avec un monsieur, je pense que c'est un, pour choisir comme pseudo courgette 2, j'imagine que ça doit être un monsieur, je l'imagine. Et donc probablement qu'en ce moment, il est déjà en train d'écrire que ce que je dis sont des bêtises. Que faire avec quelqu'un qui n'a pas l'envie de se mettre en face de moi et d'échanger parole et de me dire que ma parole est idiote et que nous débattions? Et donc, je voulais vous parler de ça. Mais je voulais d'abord vous provoquer un tout petit peu en vous racontant la meilleure blague du monde.
Ok. Non, allez-y, je suis prête à tout.
Elle
suis ouverte.
Elle est absolument extra. Que dit Pinocchio quand il a pété?
J'ai peur de demander.
J'ai pété. C'est fondamentalement idiot. Je trouve qu'elle est magnifique, personnellement. Elle illustre la fonction de la parole. Elle illustre fondamentalement la fonction de la parole. La parole, elle est absurde. Elle est radicalement absurde. Revenez avec moi là. Elle est fondamentalement absurde, la parole. Elle vise des fonctions multiples et variées, comme de montrer justement que le monde est absurde, comme je viens de le montrer en disant une phénoménale connerie, comme ça, sur les ondes, en me déguisant d'un discours soi-disant intellectuel. Et donc, il faut pas oublier que nous pensons dans notre société que la parole est à une fonction essentielle, surtout à la radio peut-être, une fonction politique. Il y a Cédric qui ne se remet pas. Elle a une fonction politique, la parole. Elle a une fonction politique parce qu'on croit qu'elle aboutit à des actes. Vous revenez avec moi ou bien vous restez parti?
Je suis là.
Elle a une fonction politique parce qu'en fait, on a toujours confié à la parole une fonction absolument magnifique qui est de créer la réalité. Dire le réel, c'est le créer. C'est la fonction de notre société, croire que la parole a une vertu double. Et le politique, naturellement, l'incarne. Elle a double fonction. D'une part, elle fascine, et d'autre part, elle séduit. Le politique adore, naturellement, cette double fonction, puisque quand on parle dans l'espace public, on espère emporter les corps et que les gens nous suivent. Cette double fonction, la fascination et la séduction. C'est une parole qui se crée dans l'espace public. On dit des choses, on rit, on pleure, on échange, on est ridicule, on est grotesque, on est intelligent. Cette parole circule dans l'espace public, elle a cette fonction. Mais pas sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est pas cette parole-là qui vient. On sait que la parole a des limites. Lorsque Sophie Villemès ou Macron décrètent le confinement, le pays se ferme. Mais elle n'arrête pas la maladie. La parole ne bloque pas le malheur, le chômage ou la contamination. La parole a ses limites. Et nous savons très bien que cette parole, et c'est pour ça que je me suis permis par cet aphorisme de Pinocchio, de montrer que la parole est ridicule et en même temps elle est fascinante parce que nous avons rigolé quelques minutes ensemble sur quelque chose qui est fondamentalement important, c'est-à-dire se rappeler que la parole n'est jamais qu'un espace de ridicule. Mais pas sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on hurle, on gesticule, on crie et on crie des abominations déguisées sous courgette 22. Donc j'ai pas le courage de ma parole. Je me déguise, je me cache, je me camoufle. Et donc je quitte l'espace public et ma parole n'est plus un lieu de confrontation où j'apprends et je désapprends. Elle est un lieu d'affirmation de certitude. On ne peut pas dire « Pinocchio dit Gepetto ». On ne peut pas. Parce que cette parole-là, quand je vous la soumets en disant que je m'appelle Jean-Van Emmelroy et je dis à deux personnes pour qui je l'estime, Véronique et Cédric, je vous dis « Qu'est-ce que dit Pinocchio quand il a pété ?» Je vous dis « Gepetto », j'assume que ce que je dis est grotesque. Et peut-être qu'en ce moment, il y a quelqu'un en train d'écrire sur le net une abomination à mon égard. Et j'espère qu'il le fait, parce qu'à ce moment-là, entre lui et moi, entre moi et lui, naît un espace de confrontation de nos différences, de désaccords, et nous discutons. Peut-être que je suis outrancier, ridicule, grotesque, peu importe. Mais je suis quelque chose, et il se crée un débat. Le débat a quitté notre espace, les réseaux sociaux le privent, car l'anonymat glisse sa fonction absolument abominable. En réalité, ces réseaux sociaux, ils posent une question, les gens hurlent, crient. Est-ce qu'en fond, ils ont toujours crié? Et que ce n'est que les réseaux sociaux révèlent quelque chose qui était là, mais qu'on n'entendait pas?
Est-ce que vous avez l'impression, du coup, Jean, que le fait de pouvoir crier sur les réseaux a amené aussi dans nos sociétés, dans nos débats, à avoir moins de débats, à affirmer les choses sans avoir de débats?
Bien sûr, parce que lorsque je vous dis, Cédric, Gepetto, je m'autorise une audace. Elle est probablement très modeste, mais je m'autorise une audace. Vous pourriez me dire, Jean, vous êtes outrancier, vous dépassez les limites. Il y avait dans le regard de Véronique à l'annonce que j'allais vous provoquer un peu une toute petite inquiétude, jusque où va-t-il aller? Mais comme elle me regarde, comme elle est là à veiller sur moi avec son regard sérieux et puissant, ma parole naturellement est construite dans l'interaction. Je m'autorise pas tout. Le réseau m'autorise tout. Parce que justement, dans le débat, je dois faire attention à ce que je dis parce que vous êtes là. Je ne peux pas me permettre tout. Or, dans le réseau, il y a un retour du refoulé, je suis psy. Hein. Il y a un retour du refoulé. Ça, le refoulé, c'est ces paroles interdites, ces choses que je ne peux pas dire, que je cache, que je dissimule, que j'ignore même. À partir du moment où je peux parler sans retenue, totalement camouflé par le silence des réseaux, qui sont sociaux mais qui ne le sont pas, ben cette parole va dans l'outrage. Elle dépasse naturellement la limite. Elle est outrancière. Et quand elle est outrancière, on quitte le débat pour aller dans la polémique. On glisse dans un autre espace. Il y a plus de... À ce moment-là, on affirme ses certitudes et on ne débat pas. Ce qu'on veut faire, c'est tuer l'autre. Ce n'est pas faire et partager sa parole avec la parole de l'autre, c'est anéantir la parole de l'autre. Parce qu'il y a un phénomène très paradoxal qui est vraiment, je ne suis pas sûr que je vais arriver à le dire, parce que c'est compliqué. La démocratie, c'est l'harmonisation des désirs individuels. Chacun d'entre nous, dans sa singularité, doit inventer avec le politique une façon de vivre ensemble. Comment faire pour que nos désirs, nos singularités s'emboîtent à celles des autres? C'est donc un paradoxe, parce que comment créer du collectif sur l'individuel? Comment garder son individualité malgré le collectif? C'est un débat, c'est un combat inlassable. Mais dans une société qui n'a jamais peut-être autant qu'aujourd'hui visé à l'égalité des différences, que ce soit raciale, que ce soit politique, que ce soit sexuelle, que ce soit toutes les différences qui sont établies en termes d'égalité, on voit bien quelque part que dans cette volonté d'égaliser tout, il y a de plus en plus de cris qui disent « j'existe ». C'est un peu comme si dans un monde mondialisé, où tout le monde est interchangeable, où en fait chacun est de plus en plus confronté au fait qu'il n'est qu'un numéro parmi d'autres, sur ces réseaux sociaux, ce cri, son désir d'exister. Le gros problème, qu'il y ait un désir d'exister, à la limite c'est même un signe de santé mentale, c'est que dans l'ombre, il y a des politiques qui ont modifié la donne. Le politique, c'est la parole a une valeur, elle va tenter de fasciner et de séduire. Je vais dire des choses et espérer que les gens me croient. Et puis arrivent des gens comme Trump, vous savez que je l'apprécie énormément, qui eux disent le hurlement, le cri, la colère agitée sur l'espace public est une fonction politique. Si vous hurlez, vous allez soumettre le réel à vos ordres. Donc il n'y a pas cet écart entre je dis que le monde est ce qu'il est et puis mon Dieu, la réalité s'impose à moi comme étant différente. Non, je hurle et tous ceux qui ont envie de hurler se rattachent à mes cris et cela devient du populisme. C'est-à-dire, le réseau social nourrit le populisme et le populisme nourrit le réseau social en soutenant l'idée que la colère individuelle a valeur. Mais attendons, la colère est un signe de santé mentale. Mais notre société avait toujours été basée sur l'hypothèse qu'il fallait la retenir. Hein? Dieu pourvoira aux injustices du monde. C'est ce qu'on appelait la philosophie des choses dernières. C'est-à-dire que vous arrivez à... Vous êtes mort, présenté devant les portiers là, qui vous disent « Bon, on évalue, vous allez en enfer, vous allez au paradis. » Enfin, qui fait un peu le bilan de votre vie. Mais le contrat, c'est que ça ne sert à rien de se mettre en colère ici. Ne vous vengez pas, attendez l'autre jour. Plus tard, Dieu pourvoira, dans une sorte de comptabilité supra-historique, à ce que chacun ait sa juste pitance. La colère, donc on la remettait à plus tard. Aujourd'hui, il y a des banquiers de la colère. Et les banquiers de la colère, ce sont les fachos qui nous disent « Arrêtez de voler dans les éclats dans tous les sens, confiez-moi votre colère et je vais en faire un programme politique. » Et le réseau social, malheureusement, abîme le débat, crée la polémique et non la contradiction. Et chacun va exprimer cette colère, non pas dans une volonté de confronter ses idées à l'autre, mais d'anéantir l'autre. Il n'y a plus de débat, il y a une volonté suprême d'anéantir l'autre. Et donc on ne peut pas dire à l'autre « je vais te raconter une bêtise pour que tu ris » parce que ça c'est un contrat social. Au moment où je vous dis, Cédric, que Pinocchio dit « Gepetto », je prends un risque, vous aussi, vous me laissez faire, je m'autorise à votre rire. Il y a débat, je ne veux pas vous anéantir et vous ne voulez pas m'anéantir. Nous allons rire ensemble et éventuellement débattre. Et le réseau social, malheureusement, désingue le débat. Et c'était simplement ça que j'appelais cri et hurlement. Aujourd'hui, comme si pour exister, il fallait hurler. Et ça, c'est un vrai problème politique.
Et c'est un problème de société.
Oui, absolument, absolument. Il ne faut pas oublier que la Bible a été inaugurée sur le fait que le Verbe crée la chair. Et donc, ça veut dire que la parole a une fonction essentielle. Mais pour que je parle, il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'écoute. Et pour que quelqu'un m'écoute, il faut qu'il parle. Il faut donc cette chose-là. Et le politique est en train de le perdre au profit de ces brutalités. Et donc, je vous tiendrai au courant de ce que va dire de ma bêtise matinale.
Il va falloir qu'il...
Les inscriptions pour le vous rire sont encore ouvertes. Si vous voulez, il débute bientôt.
Merci Jean-Valé Molreich pour cette parole que nous apprécions beaucoup et que beaucoup d'auditeurs apprécient aussi.
Merci beaucoup.
Ils ne sont pas tous courgettes.
Hein. Non. Mais je trouve que le mot même est fascinant, quoi. Le mec, je pense que c'est un mec, mais j'en sais rien, se déguise sous le mot courgette 22. Ouais. Je trouve que ça doit être jouissif et misérable.
Une photo. Team Dup.